Et oui, je reçois ce matin Maïlys Jahan pour la loi de bioéthique clap de fin. Dans la nuit du 9 au 10 juin 2021, l'Assemblée nationale a voté pour la troisième fois en faveur du projet de loi bioéthique. Cette nouvelle lecture aboutit au rétablissement d'une version du texte très proche de celui qui avait été voté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale dans la nuit du 31 juillet 2020. Et demain, 24 juin, le Sénat examinera en nouvelle lecture ce projet de loi. En tout état de cause, le texte de loi de bioéthique devrait être adopté, a priori définitivement, le 29 juin prochain. Alors, quelles sont les dispositions adoptées? Quelles conséquences pour l'enfant, l'embryon, les parents? Nous en parlons ce matin avec la déléguée d'Alliance Vita pour la Haute-Garonne. Bonjour Maïlys Jahan.
Bonjour Isabelle Duché.
Alors, ce projet de loi de bioéthique, il a été présenté en Conseil des ministres le 24 juillet 2019. C'est dire que ce processus législatif s'étire depuis bientôt 2 ans. Et Maïlys Jahan, vous venez depuis presque 18 mois, j'ai compté, sur le plateau de Radio Présence pour expliquer à nos auditeurs le contenu de ce projet de loi de bioéthique. Retenons ce matin, évidemment, on ne va pas pouvoir éplucher tout ce projet de loi, mais retenons 3 dispositions majeures de ce texte. L'Assemblée nationale a ouvert la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux couples de femmes. Les députés se sont aussi exprimés sur les manipulations de l'embryon. Et enfin, ils ont adopté des dispositions concernant le diagnostic pré-implantatoire. Alors, si vous voulez bien, Maïlys Jahan, nous allons commencer par l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux couples de femmes. On l'appelle PMA. Quelles conséquences cette disposition entraîne-t-elle?
Alors, déjà, donc, c'est la création... Enfin, c'est la possibilité pour des enfants de naître délibérément sans père. Donc, c'est une grave injustice qui leur est faite. Mmh. Et puis, avec l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, c'est aussi le remboursement par la sécurité sociale. Donc, remboursement d'une pratique qui n'a rien de médical à la base.
Oui, parce que ce n'est pas pour pallier à une difficulté d'avoir des enfants.
Exactement. Ce sont des personnes qui seront normalement fertiles, a priori, et qui vont avoir accès à cette PMA. Mmh. Le double don de gamètes va être autorisé, donc avec des enfants qui seront privés de leurs 2 origines, paternelle et maternelle. Et puis, possibilité d'autoconserver ces gamètes pour plus tard faire une PMA si besoin. La levée de l'anonymat des donneurs, les enfants issus de PMA pourront avoir accès à l'identité de leur donneur à leur majorité.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le don qui est complètement anonyme, là maintenant...
Ne sera plus forcément.
Ne sera plus
en
forcément.
En tout cas, un donneur devrait être prêt à ce que son identité soit révélée aux enfants conçus à partir de son don.
D'accord.
Il y a la filiation pour les situations en couple de femmes. La filiation à l'égard de la femme qui n'a pas accouché sera établie par reconnaissance conjointe anticipée.
Parce que pour l'instant, c'est le dicton dit que la femme qui accouche est la mère.
Exactement.
Et du coup, la deuxième femme de ce couple va être déclarée mère.
Par reconnaissance.
Par reconnaissance. Et donc, ça se fera par un acte notarié.
Exactement,
ou quelque chose comme ça.
Voilà, d'accord. C'est ça, a priori. Et enfin, le dernier point qui est embêtant, c'est qu'il y a un glissement sur la filiation pour les enfants issus de GPA. Aujourd'hui, la GPA est interdite en France.
Oui.
Mais les couples qui font des GPA les font à l'étranger. Mmh. Et dans ce cas, l'enfant n'a pas de filiation française. Et là, la filiation serait appréciée au regard de la loi française. Et en fait, c'est assez flou.
Donc, c'est une façon détournée de reconnaître la gestation pour autrui.
Et exactement. Mmh. Voilà, c'est ça. Alors, le point positif sur ce point, c'est qu'ils ont quand même rétabli le plan de lutte contre l'infertilité qui avait été supprimée par le Sénat, et ça c'est quand même très positif.
Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots de ce plan de lutte?
En fait, c'est pour permettre de financer des recherches supérieures supplémentaires sur l'infertilité.
Donc voilà une bonne nouvelle.
De plus en plus de couples justement sont en situation d'infertilité, et au lieu de proposer des PMA qui sont des palliatifs, on peut aussi faire des recherches pour comprendre les causes de l'infertilité et soigner cette infertilité.
Voilà, voilà une très bonne chose, effectivement, qui pourra rassurer des couples en difficulté. Pour terminer sur la PMA, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a bien précisé que des couples de femmes pourront s'inscrire dès la rentrée dans des parcours de PMA.
Ce qui est malgré tout un peu illusoire, compte tenu du processus législatif qui doit se terminer avant.
Oui, oui. Bon, c'est une promesse, on va dire, une promesse de campagne.
Exactement, c'est plutôt ça.
Alors, Monseigneur Dornelas, qui est responsable du groupe de travail bioéthique de la Conférence des évêques de France, dans une tribune publiée lundi dans Figaro Vox, a qualifié ce projet de loi de triste transgression. Il regrette notamment que le projet parental ait remplacé la dignité de tout être humain. Est-ce que vous partagez son analyse?
Oui, parce que là, en fait, on fait vraiment prévaloir les droits de l'adulte sur les droits de l'enfant. Certes, il faut respecter le désir de ces femmes qui ne peuvent pas
Bien
avoir
sûr.
d'enfants sans, puisqu'elles n'ont pas de conjoint. Mais en revanche, on oublie trop l'enfant qui, lui, sera privé de père.
Et du coup, Monseigneur Donnellas parle d'un glissement du projet de la dignité de l'enfant vers le projet parental. C'est en fait le projet parental qui dit la dignité de l'enfant.
C'est un petit peu ça.
C'est un petit peu ça. Alors, nous sommes ce matin avec Maïlys Jahan, déléguée d'Alliance Vita de Haute-Garonne, pour passer en revue les dispositions du projet de loi bioéthique adopté par l'Assemblée nationale le 10 juin dernier, projet qui sera présenté au Sénat demain. Nous parlons maintenant d'un deuxième point qui est la recherche sur l'embryon. Cette recherche a fait l'objet de nouveaux aménagements. Quels sont-ils, Maïlys Jahan ?
Alors, déjà, c'est des aménagements qui suppriment tous les garde-fous qui étaient déjà fragiles sur la recherche sur l'embryon. Et là, il est encore plus fragilisé. Sa recherche est très dérégulée. Par exemple, aujourd'hui, on peut le conserver jusqu'à 7 jours. On pourra le faire jusqu'à 14 jours.
Conserver un embryon.
Conserver un embryon, voilà, le laisser se développer. Ensuite, on fait des recherches sur l'embryon humain, mais on peut aussi les faire sur des cellules souches embryonnaires. C'est des cellules qui sont prélevées sur l'embryon. Ça nécessite sa destruction. Aujourd'hui, pour faire des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, il faut une autorisation. Et là,
une autorisation de qui, pardon ?
Alors là, je vous dirais une bêtise.
Il me semble que c'est l'agence
de
la
biomédecine. Je crois que c'est ça, exactement. Voilà. Et en fait, pour les cellules souches embryonnaires, on pourrait faire une simple déclaration. Donc, c'est un régime plus simple.
Oui, très simple.
Et plus souple. Ensuite, il y a la création de gamètes artificiels pour la recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gamètes sont naturellement fabriquées dans le corps de l'homme et de la femme, les spermatozoïdes, les ovocytes. Et là, il s'agirait d'essayer de fabriquer des gamètes, donc un spermatozoïde, un ovocyte, donc artificiel, soit à partir d'une cellule souche embryonnaire, soit à partir d'une cellule humaine reprogrammée, une cellule IPS, qu'on force en quelque sorte à redevenir, revenir à son stade primitif qui était le gamète. Et il n'est pas spécifié que ce serait interdit de faire des embryons à partir des cellules adultes reprogrammées. Ça veut dire qu'il pourrait être envisageable de féconder des gamètes artificiels issus de cellules adultes reprogrammées.
Donc là, on sort complètement d'un cadre de gamètes naturels.
Exactement. Ouais. Et là, on commence vraiment à rentrer dans cette logique d'apprenti sorcier. Les deux autres points qui sont très embêtants, c'est qu'il y aurait possibilité de modifier le génome de l'embryon humain. Ça fait des embryons OGM, des embryons génétiquement modifiés.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que s'il y a une maladie, on enlève ce gène qui est porteur de cette maladie ?
On peut le modifier, le corriger, mais avec des conséquences qui sont totalement imprévisibles. Parce que le corps fait des choses et parfois on a l'impression que quelque chose qui est mauvais, en fait, a aussi des côtés. Enfin, on a l'impression que c'est mauvais et en fait, ça a aussi des effets bénéfiques à côté et on ne s'en rend pas du tout compte. Et donc, ça ferait des embryons qui seraient, enfin, des enfants qui seraient leurs propres cobayes ensuite, puisque on ne sait pas ce que ça donnerait. Et enfin, il y a aussi la possibilité d'insérer des cellules humaines dans un embryon animal. Ça fait des chimères animal-homme. Et là, c'est la frontière symbolique homme-animal qui est franchie.
Oui. Et pourtant, le projet de loi n'autorise pas d'introduire des cellules animales dans l'embryon humain.
Dieu merci. Enfin, heureusement.
Heureusement. Mais en revanche, maintenant, l'inverse est possible.
Exactement. Puisque, en fait, aujourd'hui, la loi interdit de faire des chimères. Et là, la loi interdira uniquement d'insérer les cellules animales dans un embryon humain, ce qui revient à autoriser l'inverse, insérer des cellules humaines dans l'embryon animal.
Et vous me disiez en préparant cet entretien qu'il y avait justement un sondage IFOP qui avait été publié en juin 2021 pardon, et qui a interrogé les Français sur ce projet de loi bioéthique. Et les Français se sont justement prononcés sur ces recherches, cette création de chimères animal-homme. Et est-ce que finalement ils sont d'accord ? Est-ce qu'ils sont au courant dans ce sondage ? Qu'est-ce que dit ce sondage ?
Alors, le sondage, il est très intéressant. Déjà, un Français sur deux ne sait pas ce que contient le projet de loi bioéthique, déjà. Et, par exemple, effectivement, les chimères, les embryons OGM, Ils n'en savent rien du tout. Et ceux qui pensent savoir, 4 sur 5 se trompent. Et c'est souvent sur ces sujets. Par exemple, ils vont dire, oui, je sais. Et si on leur pose la question, est-ce qu'il y aura des chimères? Ils répondent, ah non, non, des chimères...
Encore faut-il savoir déjà ce que c'est, ce que recoupe le terme de chimère. Hein.
Voilà, exactement. Mm. Quand on leur explique. Et 3 Français sur 4 considèrent qu'il serait important d'insérer un principe de précaution pour interdire notamment justement les chimères et les embryons transgéniques.
Mm. Oui, donc une prudence des Français, finalement un bon sens des Français.
Exactement. Et du coup, on se rend compte vraiment qu'il y a une fracture entre les mesures adoptées par l'Assemblée nationale et les vraies attentes des Français dans leur ensemble, qui ne sont pas favorables à tout ça et qui justement veulent absolument ce principe de précaution et ne pas jouer aux apprentis sorciers.
Oui, bien sûr. Vous parlez, cette petite parenthèse à propos de ce sondage IFOP, vous parlez de séparation, d'un espèce de gap, d'un fossé entre les Français et l'Assemblée nationale. Et on le voit bien aussi avec la commission spéciale du Sénat qui, elle, a rejeté ce texte le 5 juin dernier à 18 voix contre 5, alors que pour les députés, il y en a 84 qui l'ont adopté contre 43. Donc là, effectivement, on a l'impression d'être dans un autre monde.
Exactement. Mmh. C'est un échec total de cette procédure législative, de cette... En fait, on n'est plus du tout en train de faire de la politique. Et j'avais relevé cette phrase de Didier Sicard, l'ancien président du Comité consultatif national d'éthique, du CCNE, qui disait que ce n'est pas de la politique, mais du théâtre. En fait, on ne tient pas compte des différents partis. Et il y a le rouleau compresseur de l'Assemblée nationale qui a décidé de voter quelque chose et qui compte bien le faire voter, alors que ce n'est pas l'attente des Français.
Oui, c'est ça. Alors, Maëlys Jahan, déléguée départementale de Haute-Garonne pour l'Alliance Vita, nous parlons ce matin de ce clap de fin, ce processus parlementaire pour le projet de loi bioéthique. Il y a une importante disposition qui porte sur le diagnostic prénatal. Alors, et pourtant, ce diagnostic existe déjà dans le cadre de la fécondation in vitro. Quels sont les aménagements qui sont prévus par ce texte?
Je me permets une petite rectification, puisque dans le cadre de la fécondation in vitro, c'est ce qu'on appelle le diagnostic pré-implantatoire.
Oui.
On parle du diagnostic prénatal.
Vous avez raison.
Sur des bébés qui sont déjà conçus, et donc c'est chez les femmes enceintes. Mmh. Et là, c'est pour vérifier que, globalement, que le fœtus ne porte pas de maladie.
Alors, pour l'instant, il porte sur quelle maladie? Quelles sont les maladies qu'on recherche actuellement?
C'est essentiellement la trisomie 21 qu'on recherche. Et puis, par exemple, les échographies font partie du diagnostic prénatal. Les échographies systématiques de grossesse permettent de vérifier que le fœtus soit en bonne santé. Aujourd'hui, il serait question, en fait, dans le projet de loi, donc, de modifier les pratiques du diagnostic prénatal. Non pas par le législateur, donc c'est-à-dire en faisant une loi, ce qui protège quand même, qui encadre pas mal ces pratiques, mais par des autorités administratives. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus besoin du contrôle de la loi et donc on pourrait aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et de même, on pourrait modifier ces pratiques au fur et à mesure des découvertes. Donc si on trouve une façon plus simple de découvrir plus de maladies, eh bien ça ouvrirait la porte à encore plus d'eugénisme, puisque encore plus de détection de... maladie qui, malheureusement, se conclut très souvent par une interruption médicale de grossesse.
Et dans le collimateur, quel type de maladies sont maintenant pointées du doigt? Est-ce que la myopathie, par exemple, pourrait faire l'objet d'un diagnostic prénatal?
C'est ce genre de maladie qui pourrait l'être. Et puis, en fait, on peut aller toujours plus loin. Donc, au bout d'un moment, on pourra aussi relever la myopie, par exemple. On peut envisager... en fait, quand on sait faire quelque chose, on peut aller jusqu'au bout et aller très loin. Dans les dispositions qui ont été prévues, c'est l'alignement de la clause de l'IMG sur celle de l'IVG. L'IMG, interruption médicale de grossesse, quand le fœtus est porteur d'une maladie. Et donc, le médecin serait obligé de référer sa patiente à un autre médecin si elle souhaite faire une IMG, mais que le médecin le refuse.
Donc ça, c'est sa clause de conscience, en fait, qui est détournée.
Exactement, voilà, qui est amoindrie. Et puis, pour l'IMG, ce qui est aussi très grave, c'est la suppression du délai d'une semaine de réflexion pour le couple, pour la femme. À l'annonce d'une maladie chez le fœtus, il y a toujours un effet de sidération. Il y a besoin de temps pour encaisser, pour accepter, dans la mesure où on peut l'accepter.
Prendre conseil aussi,
voilà,
j'imagine.
Voilà, exactement, discuter. Et là, en supprimant ce délai, eh bien, on permet au couple, à la femme, d'agir dans la précipitation et de faire des choix qu'elle pourrait estimer mauvais par la suite, qu'elle pourrait regretter.
On va terminer sur cet article sur la détresse psychosociale pour l'accès à l'IMG, justement. Est-ce que c'est une note positive ? Qu'est-ce qui a été...
Tout à fait. Il avait été très fortement proposé de rajouter une clause de détresse psychosociale pour l'IMG, c'est-à-dire qu'une femme dont la détresse serait suffisamment forte, mais qui peut évaluer la détresse d'une femme, aurait pu demander une interruption médicale de grossesse, et ce qui revient en fait à avorter d'un fœtus en parfaite santé jusqu'à la fin de la grossesse. Et donc c'est un grand soulagement puisque cette clause a été rejetée, et tant mieux.
Tant mieux, on va terminer voilà, sur cette note positive, ce soulagement. Maëlys Jahan, vous êtes venue ce matin en tant que déléguée pour la Haute-Garonne d'Alliance Vita et vous nous avez détaillé ce projet de loi de bioéthique qui va passer demain au Sénat. Nous vous remercions beaucoup pour ces explications. À très bientôt.
Merci, au revoir. Isabelle.